micro, Brassage Radio. Cette année, avec l'équipe, on avait envie de recevoir à domicile, en ouvrant les portes et les micros du studio de Canal Sud. Une envie de plateau, de direct, de rencontre et de spontané. Brasero 2024-2025, c'est plus de radio et plus de rendez-vous, les lundis de 19h à 20h en direct. Alors sortez les postes du placard et tournez la molette du volume.
Voilà, et cette petite phrase que j'assumerai seule, qui est Brasero, que des numéros uno. Et ce soir, c'est bel et bien un numéro uno qu'on reçoit. On avait envie d'entendre Sass Lasswed de la Comsa Company. Salut.
Bonsoir.
J'espère que vous l'entendez bien parce qu'il a plein de choses à dire. Donc, Sass, le 21 septembre 2001, tu as 10 ans. Ouais. AZF explose et au-dessus de ta tête, ton toit s'effondre. Aujourd'hui, tu es là pour parler de cet événement avec ta création Tout va bien. Comment tu as envie de te présenter, toi ?
Alors, moi, je m'appelle Sass Lasswed. Je suis comédien, c'est mon premier projet que je porte de seul en scène. Je suis accompagné à la mise en scène ainsi qu'à la dramaturgie avec Mia Ostri. Et voilà, moi, j'ai grandi au Mirail et j'ai décidé de faire une pièce de théâtre qui va parler d'AZF et du Mirail, parce qu'on n'en parle pas assez.
Peut-être tu peux nous raconter un peu comment cette création est née, c'est quoi son histoire et
En fait, moi j'ai commencé en 2017 à faire du théâtre au Théâtre du Ring et il fallait faire une audition pour rentrer dans l'école. À ce moment-là, je me suis dit « merde, j'ai jamais fait de théâtre, je sais pas ce que je vais montrer » tout ça. Et je réfléchissais et je me suis dit « ben tiens, pourquoi pas AZF ?» Donc j'avais commencé à préparer une espèce d'impro où j'ouvrais un coffre magique, je trouvais de l'or, etc. Un peu un monde merveilleux, mon entrée dans le monde merveilleux d'AZF. Et je ne suis pas allé au bout de cette impro pour le Théâtre du Ring. Et j'ai préféré faire une impro sur autre chose, sur une scène de racisme, etc. Voilà. Et plus tard, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout ? Ça fait partie de nos histoires et je pense que c'est bien de les raconter, de les transmettre. Et d'autant plus que ça fait 23 ans que l'explosion de l'usine a eu lieu, que nous, en tant qu'enfants, on n'a pas pu trop s'exprimer sur cette question-là, sur l'histoire... l'histoire d'AZF et les discours des adultes étaient très présents, mais pas ceux des enfants. Et sauf que maintenant, les enfants, ils sont grands et les enfants, ils vont foutre le brasero. Ils sont prêts à parler.
C'est vrai qu'à des moments comme ça, il y a des périodes où les gens, ils sont prêts à parler. Moi, j'avais envie de te demander, donc ta création, elle s'appelle « Tout va bien ». Mais a priori, tout va pas bien. Et ta compagnie, elle s'appelle comme ça, mais a priori, elle s'appelle pas comme ça. Enfin, tu vas nous dire, du coup, comment s'appelle ta compagnie et pourquoi t'as choisi ce titre ?
Alors moi, ma compagnie, déjà, elle s'appelle Khomsa. La Khomsa, c'est un peu la main de Fatma. C'est un peu pour éloigner le mauvais œil. Et quand j'ai créé cette compagnie, je me suis dit « Ah, il y a tellement de mauvais œil dans ce milieu culturel où ça se regarde un peu partout, un monde de requins hyper capitalistiques. Et bien que le monde soit libéré, on est chez les pires. » Et bien, je me suis dit « Il me faut un Khomsa à tout prix. Là. Il me faut une petite amulette magique parce que ça tire de tous les côtés. » Voilà, donc j'ai décidé d'appeler ma compagnie Khomsa pour cette histoire-là. Ensuite, tout va bien. Tout va bien, ben si, tout va bien, tout va bien. C'est un peu comme quand on va parler d'histoire de racisme, on n'a pas envie d'arriver et de faire « ouin ouin, c'est dur, on souffre, on est pauvre, on a mal, on est discriminé, ouin ouin ». Non, tout va bien, mais est-ce que vous ça va bien ? Parce que nous ça va. Et... avec AZF, tout va bien, c'est un truc un peu particulier. Moi, À 10 ans, quand je suis parti de chez moi après que le toit de ma maison se soit effondré, je suis parti dans le kebab d'un pote, un voisin, qui s'appelait Medani. Et c'était trop mon pote, on était ensemble au collège Stendhal à la Favorette, et ce jour-là, on n'avait pas école, et du coup, après que c'est explosé, je raconterai plus précisément plus tard ce qui s'est exactement passé, mais en tout cas, après que c'est explosé, je suis parti le rejoindre à lui, à son kebab, qui s'appelait Tout va bien, et je me suis dit, un hommage à ça, c'est quand même pas mal.
Ah bah oui, ok, il y a une sacrée, il y a des sacrées histoires derrière, derrière ce titre et derrière le nom de ta compagnie.
Et c'est quoi un peu les fils que tu tires voilà, au niveau des thématiques ou comment tu construis ton spectacle autour de tout quoi, t'as envie de parler quoi.
La justice. Parce qu'en fait, de la justice, il n'y en a pas. De la réparation, il n'y en a pas. Et on ne la donnera pas, donc on se la fera nous-mêmes. Et cette pièce, c'est une des manières de pouvoir en faire une. Donc c'est que tu as une usine qui explose, par accident, paraît-il. Mais peut-on vraiment parler d'accident quand on a posé une petite usine sur la périphérie de Toulouse et qu'on a décidé de construire des quartiers qu'avec des Arabes et des Noirs et des pauvres. Est-ce réellement un accident? On peut se poser la question. Je ne pense pas que c'était un acte terroriste commis par un musulman islamiste. J'ai pas envie de rentrer dans le fantasme des Français racistes. Je préfère juste me dire cette explosion, elle a eu lieu pas par hasard, elle est la conséquence d'un système capitaliste qui va à sa propre perte. Et voilà, donc l'idée, c'est que moi, j'ai pas eu de procès. Mes parents n'ont pas fait de procès. Mes parents n'ont rien demandé. Moi, je suis un enfant de l'immigration. Mes parents sont arrivés en France. Ma mère, quand elle avait 16 ans, mon père autour de la vingtaine. Mon père était maçon, ma mère femme de ménage. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils se sont occupés de nous merveilleusement dans un pays qui ne les a pas forcément très bien accueillis. Mais ils sont restés là, ils ont bien fait les choses. Ils nous ont bien éduqués, on est tous allés à l'école. Voilà. Et du coup, ils ont toujours refusé d'aller porter plainte après l'explosion de cette usine. Pourquoi? Parce que déjà, je pense, il y a un sentiment que la justice n'est pas pour nous, puisqu'on a des justices de classe, des justices de race, donc ils ne sont pas allés vers là. Mais surtout, il y a un complexe d'immigration. Il ne faut pas aller porter plainte, il ne faut pas aller demander de l'argent. On a perdu le toit de notre maison. Mon père a tout reconstruit lui-même dans cette maison. Donc, mes darons, très clairement, à cause de ce complexe-là, d'un pays raciste, ne sont pas partis porter plainte ni intenter quoi que ce soit. Et du coup, moi, à 10 ans, qu'est-ce que j'allais faire? À 10 ans, je vais rien faire. C'est déjà si j'ai compris ce qui s'est passé. Sauf que maintenant, j'en ai 33. Et il se passe quoi? On monte un procès là? Il n'y a pas prescription. Donc s'il y a des avocats, n'hésitez pas à nous contacter sur Canal Sud. N'hésitez pas à contacter la Khomsa Company. CIE.KHOMSA@gmail.com. Je répète, CIE.KHOMSA@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des petits tips à nous donner. Et voilà. Donc, c'est cette question de la justice qu'on n'aura pas. Je sais très bien qu'on ne l'aura jamais. J'attends pas qu'on m'en donne, mais j'ai décidé de créer à partir de ça pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir visibiliser aussi des voix comme les miennes qui n'ont pas été entendues. Et voilà, c'est aussi un hommage un hommage à toutes les personnes qui ont vécu cette explosion. Particulièrement un hommage aussi aux personnes qui ont été les plus sinistrées, qui l'ont vécu de proche. On va dire principalement la race des pauvres et quelques autres. Mais après, pour tous ceux aussi qui ont vécu dans leur âme et dans leur corps, dans leur chair, cet événement. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu la thématique de mon spectacle.
Moi, du coup, tu parlais de ça, de ton âge, que tu avais 10 ans et aujourd'hui, tu en as 33. Et j'avais envie de te demander, du coup, comment tu deals avec tes souvenirs, en fait. Est-ce que tu t'en souviens bien? Est-ce qu'ils sont déformés? Où c'est que tu vas les chercher? Est-ce que tu utilises que les tiens? Enfin, du coup, cette question de la mémoire aussi, d'événements qu'on balaye, d'événements qu'on veut faire oublier. En tout cas, voilà, ça m'intéresse si tu as envie de répondre un peu sur cette question de la mémoire et du souvenir par rapport à... Du coup, c'était le 21 septembre 2001. Voilà.
Alors, moi, je travaille à partir d'interviews. Je fais des interviews de personnes qui l'ont vécu de proche, des interviews de personnes qui l'ont vécu en étant enfant, mais aussi des adultes, parce qu'ils étaient aussi là. Et du coup, à partir de ces interviews, j'écris aussi de la fiction. En gros, c'est une pièce entre fiction et documentaire où je joue seul sur scène le personnage d'un enfant qui entend les voix de la radio, la presse, mais qui comprend pas forcément ce qui se passe et qui du coup vient rejouer un procès dans sa chambre pour se raconter ce qui s'est passé. Et dans ce procès, il y a des témoins qui viennent à la barre. Et ces témoins-là, c'est principalement les gens que j'ai rencontrés autour des interviews qui viennent d'une certaine manière aussi témoigner de cette mémoire. Derrière cette pièce, des gestes qu'on veut faire, c'est justement passer de la question de la mémoire à la question de l'histoire. Donc, comment, en fait, collectivement, on vient digérer un traumatisme collectif et comment on en fait histoire pour pas l'envoyer aux oubliettes, mais pour le mettre... un peu à l'honneur ou pour qu'on n'oublie jamais, plus jamais ça. Je crois que c'était le nom d'un collectif pendant la ZF. Et aussi dans le spectacle de Britney Spears.
Une double film. Référence très liée. Ok, super. Et t'as un peu répondu à la question et avant et maintenant, parce que la prochaine question, c'était avec qui tu travailles et du coup t'as dit qu'il y avait une dramaturge qui travaille avec toi et avec quoi tu bosses là, tu dis que tu fais des entretiens. Oui. Est-ce que t'as envie de compléter un peu c'est une aventure que t'es un seul en scène, mais c'est une aventure plus collective que ça.
Alors Mia Ostri m'accompagne à la dramaturgie et à la mise en scène. Et je suis porteur de projet. Donc on vient raconter l'histoire que j'ai envie de raconter. Mia Ostri, c'est quelqu'un en qui j'ai énormément confiance et qui vient m'accompagner dans ce projet-là, sur la mise en scène, qui est aussi là pour m'aider à l'écriture. Et aussi, on discute beaucoup de vers où ça va, ce que moi j'ai envie de faire derrière, etc. Et elle a une esthétique que je trouve très cool et que du coup, j'avais envie qu'elle soit là sur mon spectacle. On travaille à partir des entretiens, mais on travaille aussi à partir d'un rétroprojecteur. Donc les rétroprojecteurs à transparence, c'est les trucs qu'on avait à l'école quand on était petit, où en fait, tu prends une feuille transparente et tu la poses dessus, et tu peux faire, admettons, des dessins, comme dans le spectacle, et du coup, c'est projeté directement sur une toile. Et du coup, moi, comme... je joue avec ce rétroprojecteur où en fait j'ai des dessins qui sont faits et je tiens particulièrement à remercier Shaïne, Naël et Fares qui m'ont beaucoup accompagné dans ces dessins, qui m'ont fait beaucoup de dessins, et Mia aussi, et du coup ils refont des dessins et que moi je réutilise et que, avec lesquels je joue, donc c'est un peu interactif. Donc, à un moment donné, par exemple, il y a un château qui est dessiné, un chat, parce que l'histoire s'est passée au château de Somirail, dont j'étais le prince, bien évidemment. Autant se tartiner un petit peu. Et du coup, ils font les dessins. Et moi, je, par exemple, je joue avec le chat sur scène. Je me pose sur le canapé. Donc voilà. Et ces dessins, ils apparaissent un peu comme des pièces à conviction aussi dans le procès. Et l'idée, pourquoi ces dessins-là ? Parce que c'est un spectacle où j'ai envie de... Voilà, où le personnage, en tout cas principal, est un personnage enfant et du coup qui vient raconter son rapport au merveilleux et à la catastrophe. Ou bien à la catastrophe, mais dans le merveilleux. Comment le cerveau de l'enfant a pu se traduire la réalité de ce qui se passait pour pouvoir la vivre. Et pour ça, j'avais besoin de fraîcheur. Et donc, bon, moi j'ai 33 ans, je suis un enfant dans l'âme, mais je ne suis pas vraiment un enfant. Donc je demande à des enfants de faire des dessins. Je fais des ateliers avec eux où ils participent, ils font des dessins, ils font leurs propres dessins par rapport à leurs propres histoires. Ils viennent raconter leur histoire. Je leur demande, je leur fais des commandes, même carrément, à des moments, je leur fais des commandes de dessins qu'ils me font et que moi, je viens réutiliser sur scène. Voilà.
Ok, et d'ailleurs, cette création, elle sera à partir de quel âge ?
C'est un tout public.
Ok. Tout public, donc tout le monde.
Ah oui, je voulais dire aussi, pour l'équipe, il y a Mia au stream et on va vouloir aussi quelqu'un au son et à la lumière. Et si nous avons des âmes bénévoles et charitables, qui, Inch'Allah, peut-être un jour seront payées, si les programmateurs daignent bien nous programmer et nous donner un peu d'argent, mairie de Toulouse,
donnez-nous. On vous remettra le mail, vous aurez le mail de la compagnie en lien sur notre site pour toutes les petites annonces qui auront lieu pendant l'émission.
Ouais, voilà. Donc, s'il y en a quelqu'un qui peut venir nous aider au son, à la lumière, ça serait merveilleux.
Et donc, c'est l'heure.
C'est l'heure du petit quiz.
C'est l'heure du petit quiz faux quiz. Attention, je n'ai pas préparé de jingle faux quiz, mais les auditeurs, vous pouvez écouter ce qui va suivre, essayer de deviner. C'est des refs un peu de la culture pop, comme on dit. Et notre invité nous fera le lien entre ce que vous allez entendre et sa création. Attention, premier extrait.
Un jour je serai le meilleur dresseur. Sans répit, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, les secrets de leur pouvoir. Pokémon, accompagné, c'est notre histoire. Ensemble,
alors, j'espère que vous l'avez reconnu. Moi, je ne l'aurais pas reconnu, mais donc c'était le générique. Le générique ?
Oui, c'était le générique.
C'était le générique...
De Bras Zéro.
Le nouveau générique de Bras Zéro, comme vous avez pu entendre tout à l'heure. Non, c'était le générique de Pokémon. Donc, tu nous as envoyé ce générique. Donc, pourquoi j'ai envie de te demander, hein, principalement ?
Pourquoi ?
Pourquoi, ouais.
Je pense que c'est une bonne question. Super intéressant. Alors, pourquoi le générique de Pokémon ? Mais parce que Pokémon, wesh, c'est nos années quand on était enfants. On avait la balle, tu jettes la balle, t'attrapes les Pokémon. Peut-être que les Pokémon sont les gens du Mirail qu'il faut attraper, peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, cette idée de générique de Pokémon, j'ai fait une présentation d'une maquette du spectacle au Festival Les Rassemblés en août. Et dedans, il y avait une scène de lip-sync de l'enfant sur Pokémon. Et du coup, c'est pour ça principalement que ça m'a fait penser à ça. Après, Pourquoi Pokémon plus précisément? Ben parce que voilà, c'est un voyage initiatique, il y a des étapes, il doit se trouver les petits joyaux, les je sais pas quoi, il doit aller chasser ses Pokémon. Et vraiment, il y a vraiment ce truc de l'aventure, quoi. Et moi, ZF, ça a été une aventure. Vraiment, ça a été une aventure de ouf. Genre, je me rappelle, je me retrouve avec mon frère, on rentre dans une boulangerie après l'explosion, complètement éventrée, défoncée, et nous, on est là, et on prend les décos, et on joue avec les décos, c'est hyper coloré, et voilà, AZF, c'est aussi Pokémon.
Tu veux dire là dans ta création ou dans ton souvenir, enfin dans ce qui s'est passé?
Dans mon souvenir, ouais.
Tu rentres dans la boulangerie et vous prenez les décos de la boulangerie finalement qui sont un peu partout.
Ouais.
Et ok, c'était aussi pour...
C'était pour le truc un peu magique ou un peu coloré. Et du coup, Pokémon, c'est quand même bien coloré, tu vois.
C'est vrai. Alors, attention, voilà, montez le volume. À la technique, ça envoie le deuxième son du faux quiz.
Donnez-moi de l'argent. Au moins, laissez-moi travailler dans vos théâtres, même si vous ne me payez pas. Donnez-moi une salle. Donnez-moi du matériel. Harry!
Du Poudlard qui demande plus de moyens pour la culture finalement, parce qu'il n'y a pas de raison, à Poudlard c'est comme ailleurs, c'est un truc qui dégringole. Harry Potter, pourquoi?
Parce que je sais pas si vous savez, mais Harry Potter a grandi au Mirail.
Ah,
mm-hmm.
Autre chose.
Harry Potter de la Rainerie.
De la Rainerie. Mm-hmm.
Qui okay. Connaissait Madame du Barry d'ailleurs, et qui était dans les contrées de Bellefontaine. Pourquoi Harry Potter? Alors, Harry Potter, c'est une histoire de ouf. Pour moi, j'ai découvert Harry Potter après l'explosion de l'usine AZF, quelques temps après. Je vous laisse imaginer 300 tonnes de nitrate d'ammonium qui explosent. Quand tu vis à 500 mètres à vol d'oiseau, ça fait des petites séquelles quand t'as 10 ans. Donc moi, je me rappelle que quand j'étais petit, le soir, je dormais dans ma chambre et j'entendais les avions passer. Et j'avais le cœur qui s'emballait de ouf. Genre j'avais trop peur. Et ça me rappelait un peu le moment de l'explosion. Et une de mes sœurs a eu la bonne idée de m'offrir le premier tome de Harry Potter. Et je suis rentré dedans, mais comme ouf, j'ai kiffé de malade. Je me rappelle, j'étais en voiture, je marchais. C'était vraiment un truc où même j'avais même plus envie de manger, j'avais juste envie de lire Harry Potter. Et je rêvais la nuit que je me battais dehors avec les détraqueurs et tout. Et ces détraqueurs, pour moi, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'explosion de cette usine. Et la non-reconnaissance, et la non-réparation, et la non-assistance qu'il y a eu après, et encore maintenant, où il n'y a encore pas de reconnaissance sur ce qu'on a vécu. Parce qu'il y a les séquelles d'avant, mais il y a encore même les séquelles d'aujourd'hui. Et en fait, on développe des maladies, on développe plein de choses, et en fait, personne ne les reconnaîtra. Et pour moi, Harry Potter, c'était ce petit soupçon de magie face à l'obscurité.
Oui, donc là, c'est vrai que tu reparles du lien entre la catastrophe et le merveilleux, et comment, à un moment donné, un imaginaire aussi fort quand même et aussi structuré qu'Harry Potter, il te permet d'aller ailleurs, finalement. Celui dont on ne prononcera pas le nom, mais on peut le prononcer pour Voldemort.
Mmh.
Du coup, j'imagine que dans notre histoire Voldemort, voilà.
J'ai eu peur.
Et c'est, voilà, vous pouvez avoir la ref de qui c'est Voldemort dans notre histoire. Et on va envoyer le troisième et dernier extrait. Vous pouvez toujours deviner chez vous et ne pas nous appeler parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, pensez à nous très fort. Alors peut-être c'est notre référence la plus difficile à trouver, ou pas.
Sauf pour les vrais fans.
Sauf pour les vrais fans. C'était la musique, le générique de Xena la guerrière.
Ouais, hein. C'était bien
ça. Maintenant que je le dis, je vois sa tenue, ses cheveux longs. Je la vois se battre, je la vois très déterminée, Xena.
Ouais.
Et du coup, toi, tu la vois comment ?
Moi, Xena, je la vois hyper sexy, méga masculine, avec des gros bras, avec une espèce de tenue à moitié presque en fer, à des endroits un peu dorés et tout. C'est la princesse de la guerre, de la justice, Xena.
Xena la guerrière. Et tu regardais ça ?
Ah ouais, j'adorais même, j'étais au collège Stendhal. Ah oui, c'est drôle parce qu'au collège Stendhal, on se retrouvait, on était dans des Algéco pendant des années, on a fait, après l'explosion de l'usine, j'étais en CM2 et après je suis passé en 6e et mes années collège en fait, je les ai fait dans des Algéco. Et je me rappelle, j'avais un espèce de truc rond là, c'est les trucs, je ne sais pas à quoi ça servait, c'était en géométrie, ça devait être pour prendre des mesures ou c'est... Vous voyez là, comme les trucs triangles là, ça s'appelait comment déjà ?
Une équerre.
Super, c'était le quiz.
Non, ce soir on est sur du quiz.
Non mais je vois, non mais le demi-cercle.
Voilà.
Le
et
demi.
Moi, et je faisais, ben, ils en faisaient des entiers aussi.
Ah oui, toi t'avais
voilà.
Un entier.
Et okay. Moi je faisais un chakram avec. Et donc, du moins, chakram ou chakra, je sais plus comment elle appelait ça, Xena. Du coup, elle prenait son truc, elle faisait wouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulou et elle le jetait et ça tapait sur tous les murs. Et moi, je m'amusais à le jeter sur les Algéco. Donc, ça allait sur des grosses marques, mais ça rebondissait pas. Et du coup, pourquoi Xena ? Mais parce que c'est une femme de ouf. Xena, c'est la reine mère, c'est la reine dragon, c'est cette mère qui est venue me sauver après aussi l'explosion. Moi, j'ai ma daronne, c'est une histoire de ouf. Elle se retrouvait, elle travaillait, elle faisait du ménage à Balmagramont et elle entend un boum. Mais sauf qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et du coup, elle se retrouve avec Acoste, la femme avec qui elle travaillait. Elle lui dit ah, « c'est quoi ?» nanana. Et elle se retrouve à bouger et en fait, elle se dit « ah, il faut que j'aille rejoindre mon fils, il est tout seul à la maison ». Et elle se retrouve à partir sur le périph. Et le périph bondé, un truc de malade, bouché, tu peux pas passer. Et du coup, elle se remet à laisser la voiture sur le bord de la route parce qu'en fait, elle se rend compte que plus elle se rapproche du Mirail, et en fait, plus c'est dévasté, plus il y a de la poussière, de la fumée, des gens sans, des voitures complètement pliées, renversées, une horde de zombies qui repartent de vers l'explosion, en fait, qui s'échappent. Et du coup, plus elle se rapproche et plus c'est le drama. Donc elle s'est retrouvée à courir sur le périph. Elle a arrêté une ambulance. L'ambulance, c'était là, madame, qu'est-ce qui se passe ? Non, elle était, mais il faut que j'aille rejoindre mon fils. Et là, le type de l'ambulance, il capte quand elle lui dit, il faut aller au Mirail. Et là, il a tapé une pointe. Et quand tu écoutes le témoignage de ma mère, que vous pouvez écouter dans le spectacle, elle te raconte, elle te dit « Et l'ambulance, elle allait tellement vite qu'elle s'est envolée et je suis arrivé devant la bouche de la porte de la maison et là, j'ai trouvé tout détruit et je criais, je pleurais « Il est où mon fils ? Il est où mon fils ?» Sauf que moi, je me suis cassé. Ah, tout va bien.
Toi, t'étais elle... à tout va bien, mais elle ne savait pas que tout allait bien.
Elle
ne
savait pas, donc elle est montée, elle me cherche, elle voit les gravats. Parce qu'en fait, le toit est tombé dans ma chambre. En bas, ça allait, tu vois, mais du moins, ça allait. Tout est arraché, mais le toit est tombé dans ma chambre, wesh. Heureusement que j'étais descendu ce jour-là et que j'étais parti voir les dessins animés. Peut-être qu'il y avait Pokémon, peut-être qu'après, il y avait Xena. Sûrement pas Harry Potter, mais pourquoi pas. Et du coup, elle s'est retrouvée à courir, à me chercher partout. Tu vois. Et en fait, il y a le voisin, M. Issindou, qui lui, à l'époque, était juste... en fait, il devait jeter un coup d'œil sur moi parce que j'étais tout seul. Et du coup, il dit à ma mère, mais en fait, il est parti, tout va bien. Et là, je m'en rappellerai toute ma vie. Pour là, tout va bien. Il y a deux chemins. Soit tu fais le tour et tu passes par la route, soit tu passes par un endroit où il y a un petit mur un peu pérave, un peu défoncé, avec des poubelles partout autour. Là. Et là, je me rappellerai toute ma vie, je suis avec mon frère, mon deuxième frère, mon pote Madani, son frère. Et du coup, on a la sandwicherie. Là, il y a l'oncle de Madani qui fait des plâtrés de sandwich pour les gens parce qu'en fait l'électricité était coupée, les gens n'avaient plus à manger, nanani nanana. Et là je vois ma daronne au loin, telle Xena qui saute par-dessus le mur, un peu boulotte à l'époque, mèche blonde, talons aiguilles, elle court vers moi et elle me prend dans ses bras. Et vraiment, ce moment où elle me prend dans ses bras, c'est le moment où je pense avoir ressenti mon corps. C'est comme si mon corps avait disparu. Et ce moment-là, c'est un peu comme si je revenais sur Terre. Et elle me prend dans ses bras et je me rappelle à pleurer. Moi, j'ai un souvenir où aussi je pleure. Mais du coup, c'est le moment où t'es en mode « Ah, elle me kiffe trop et elle est là !»
Et elle a tout traversé pour te retrouver le plus vite possible.
Mais ils n'ont pas connu que AZF, tu vois.
Oui.
Un jour, j'en parle avec ma mère pendant le Covid, où genre, il ne faut pas sortir de chez soi, il ne faut pas aller voir ses parents, il ne faut pas aller là. Moi, je dois aller, cassez-vous de là. Hein. Je crois que je vais laisser mes darons tout seul, quoi. Donc, j'allais voir mes parents et ma mère, elle me dit, nous, on est parti de la Tunisie. Ok. On est venu en France, le racisme. Ok. Il y a eu l'explosion d'une usine. Ok. Il y a une pandémie mondiale. Ok. Du coup, tu vois, ils en ont traversé, tu vois, des trucs. Nous, t'as un peu... Ok. Donc, ils ont... Oui, c'est des... Ben, c'est des gens courageux et qui sont forts.
Et du coup, bah, quand même, vous avez pu entendre qu'il y a pas mal de questions politiques qui sont soulevées autour de cette création. Et c'est volontaire, on vous rassure.
Ah bon ?
Mais du coup, on va entendre quelques mots de notre président de l'époque. Donc, on peut continuer le quiz. Qui était le président de l'époque en 2001 ?
Je ressens, comme toujours en cas de drame, une très grande peine, une très grande émotion. On a vraiment l'impression qu'on est personnellement touché quand on voit ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui sont blessés légèrement, tant mieux. Et là, on a le sourire, ou hélas, plus gravement.
J'ai voulu venir, bien sûr, immédiatement. D'abord parce que cet accident est... dramatique. Ensuite, parce que bon, c'est Toulouse et ma région.
Monsieur Bouillard, vous voulez bien répondre à une
question ? Alors voilà, vous venez d'entendre les mots de Jacques Chirac et de Villepin, je crois. Ou Villepin, comment on dit ? Ah non, Lionel Jospin, premier ministre de l'époque. C'était le move droite-gauche, a priori. Du coup, on avait envie de te demander aussi, comme on a demandé un peu comment tu deals avec le souvenir, du coup, comment tu deals avec les questions politiques que ça sous-tend au niveau des conséquences de la réparation, du racisme que tu dénonces, du fait que ça soit un accident par accident. Comment en tout cas, tu as l'impression de traiter les questions politiques ?
Mais pour moi, pour en revenir à ce que c'est que la politique, c'est les citoyens qui participent à la vie sociale et de l'endroit où ils vivent, de la cité. Et du coup, qui viennent organiser la cité comme ils l'entendent. C'est une manière de gouverner son propre monde, en quelque sorte. Pour moi, c'est un peu ça. Et du coup, quand t'as une explosion aussi grosse qui a lieu dans une ville, tu t'attends à ce que il y ait une reconnaissance des gens qui ont vécu ça, qu'on se re-questionne de pourquoi on a construit des quartiers tout autour d'un site Céveso qui apparemment n'a pas explosé qu'une fois, qui avait déjà explosé par le passé, à côté d'une poudrerie. On peut légitimement se poser la question, bon, vous avez peut-être pas géré à l'époque, donc maintenant on rediscute un peu des bails. Et en fait, pour moi, il y a quelque chose où on a été complètement dépossédé des moyens politiques. En fait, il y a des gens qui décident qu'on va mettre des quartiers là, qu'on va mettre telle population et que c'est comme ça. Déjà, à l'époque, moi, quand j'ai interviewé des gens qui ont vécu l'explosion, ils me racontaient que pas loin de l'usine, des enfants faisaient des mises en situation au cas où l'ONIA explosait, au cas où il y a un accident chimique. Mais c'est quoi ce fucking délire ? D'où on fait des mises en situation d'explosion d'usine pour des enfants ? Mais quels enfants ? Les enfants de qui ? Pour les enfants de qui on fait ça ? Donc, quand j'entends Monsieur Chirac dire « Nous sommes touchés », mais vous, vous êtes touchés. Si vous, vous êtes touchés, nous, on est quoi ? Après Chirac, il y a un truc avec lui. C'est qu'un jour, il a bien voulu s'opposer aux soldats israéliens. Donc pour ça, respect. Après, pour le reste, c'est un pantouflard. C'est en quelque sorte un capitoule, peut-on dire. Un capitoule, un des capitouls qui gouverne. Lui, il gouvernait la France, mais à Toulouse, on en a d'autres. Hein.
C'est quoi capitoule ? Qu'est-ce de chaud, capitoule ?
Capitoule, c'est les...
Capitoule.
Dans mon spectacle, je parle un peu des capitouls, mais c'est un peu les... c'est des hommes politiques au pouvoir à une certaine époque à Toulouse.
Ok. Capitole. Ah, Capitole, Capitole. Oui. Ah. Capital.
Exactement.
Ouh, ça fait beaucoup de jeux de mots, tout ça.
Et donc, juste pour dire un dernier mot, l'usine... l'exploitation de cette usine, elle est de fait politique. Elle a servi à de l'armement, elle a servi à de la surproduction, une surproduction en plus de malade, parce qu'on se retrouve à faire des engrais chimiques, d'azote et fertilisants pour qu'on mange des trucs. On mange quoi en fait ? On mange de la merde. Et après l'usine, elle nous explose à la gueule. Et du coup, il y a un truc où c'est pas juste Total, c'est facile. C'est pas l'usine, en quelque sorte, la responsable. Je parle pas de Total, hein. Là, je parle de l'usine, le truc de fer, quoi. Nous, comme dirait ma sœur, l'usine, quand on se réveillait le matin, on la voyait en face de chez nous. C'est un peu comme si elle nous faisait coucou. Et l'usine, elle faisait partie du paysage. Tu sais, quand tu t'aimes un endroit dans lequel... tu vis ou que tu as vécu, il y a des objets, il y a des bâtiments qui sont presque vivants pour toi. Ils sont là, ils font partie de l'âme de là où tu vis. Et l'usine, en quelque sorte, nous, on n'avait pas en soi de problème contre elle, hein, ce truc qui trône par là. Mais par contre, l'organisation sociale qu'il y avait derrière, c'est autre chose.
Tu nous as envoyé un autre son qu'on va peut-être pouvoir écouter et qui soulève aussi une autre question politique. Peut-être on le diffuse et puis tu pourras réagir juste derrière.
Je pensais pas que c'était une émission politique. Je pensais qu'on allait parler art, subvention.
On va y venir.
D'accord. Monsieur Bouillard, vous voulez bien répondre à une petite question ?
Ou pas ? Non, aucune.
Épuisé par 3 heures d'audition, l'ex-juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière ne dira pas un mot. Il est venu présenter son rapport sur le contexte toulousain, rapport que lui a commandé la Défense en 2010. Pour lui, en 2001, Toulouse est fortement affectée par la menace islamiste. Le spécialiste de l'islam Gilles Kepel, qui lui succède à la barre, ne dit pas autre chose. Toulouse en 2001 est une pépinière de ce que deviendra plus tard le terrorisme français, à commencer par les crimes de Merah en 2012.
Artigat est déjà présent. C'est à Toulouse, par exemple, que les clans viennent s'installer dès l'année 2000. Oui. Et il y a quelque chose là qui ne se passe pas dans d'autres villes françaises à ce moment-là, dont à l'époque on ne maîtrise pas véritablement la connaissance.
Cette connaissance du contexte, personne ne l'a en 2001. Cette analyse a posteriori agace donc les parties civiles et notamment le conseil de la famille d'Hassan Jandoubi, ce manutentionnaire tué dans l'explosion d'AZF et soupçonné un temps d'avoir été un islamiste radical.
Il n'a jamais été reconnu comme tel, et surtout il n'a jamais été un religieux, comme on dit, puisqu'il ne portait pas la djellaba, sa femme n'a jamais porté le voile, et on vient encore aujourd'hui essayer de nous rabattre les oreilles pour nous dire qu'effectivement ce serait un terroriste, et ça c'est juste insupportable.
La police toulousaine a-t-elle pris suffisamment la mesure de ce contexte local ? Toutes les investigations ont-elles été menées autour de l'hypothèse terroriste ? Sinon, pourquoi ? 3 policiers défileront à la barre aujourd'hui qui répondront de manière contradictoire à ces questions.
Mais bande de merde pathétique, mais vous êtes sérieux ? Il y a une usine qui explose et vous, c'est les Arabes. C'est les musulmans.
Toulouse, pépinière du terrorisme.
On parle. Alors, ah oui, le droit au boom, on pourrait en parler ou quoi ? En fait, vous, il se passe un Merah, il se passe un nanani, nanana, des monstres, hein, mais que vous avez créés ? Scandale ! Là, on en parle partout, c'est horrible ce qui se passe. Hein. Par contre, le boom de l'usine, normal, ça passe. On met rien en place. Depuis 2001, on s'est mis à faire la guerre à tous les musulmans depuis 2001. Donc vous, maintenant, vous venez parler de Merah, de Klein, tout ça. Mais Merah, Klein, ils sont apparus comment ? Ils sont apparus parce que depuis 2001, vous êtes en train de discriminer certaines populations. Donc, il y a des gens, ben ouais, ils sont un peu paumés, ils savent pas quoi faire et du coup, ils s'accrochent un endroit, une idéologie, un truc, et ils font ce qu'ils font. Mais c'est les conséquences de ce que vous avez mis en place. Et donc, je trouve ça un peu drôle qu'à ce moment-là, on ose faire le parallèle entre le terrorisme islamiste et l'explosion de l'usine. Sachant que d'où, en fait, il y a un arabe, l'homme au six-slip, le tunisien, le Jandoubi qui travaillait à l'usine. C'est lui qui a fait péter l'usine. Mais vous êtes des grands malades. Juste, vous stockez pas bien vos produits, vous faites n'importe quoi. Vous êtes dans des logiques de rendement de ouf. Vous voulez toujours plus de profit, plus de notoriété, plus. C'est pour ça que ça a pété. Donc, la piste terroriste, ouin ouin, à part si c'est vous. Parce que ce qui est très drôle avec cette histoire de terrorisme, c'est que le terrorisme, c'est devenu notre nouvelle manière de gouverner. Alors maintenant, aujourd'hui, on va nommer ce qui se passe comme une catastrophe d'usine, comme relevant potentiellement de crimes terroristes de la part des musulmans. Arrêtez 2 minutes, là vous foutez notre gueule quand même. Elle nous a explosé à la gueule à nous. Donc en fait, moi j'ai envie de dire la question, c'est les booms, ils sont pour qui en fait ? Il y a des booms que vous autorisez, d'autres que vous autorisez pas. C'est ça, ouais.
Donc, on arrive... voilà, on a encore un petit moment avec toi et on a encore des questions. On avait envie de savoir... t'en étais où des étapes de création ? Parce que là, on parle de tout va bien, mais du coup, est-ce que tout va bien pour tout va bien ?
Alors là, tout va pas bien, là. Je suis énervé maintenant.
Et on n'a pas de musique de transition pour pouvoir souffler un peu.
Non,
c'est non
pas.
Mais c'est vraiment...
J'en suis.
Ouais, où ouais. T'en es ? Est-ce que tu l'as déjà montré ? Est-ce que tu as déjà partagé comme... Enfin, là, tu partages avec nous, c'est une forme de partager. Mais du coup, je crois que tu as fait une ou deux sorties de...
J'en ai fait trois même.
Trois même.
En gros, j'ai fait deux maquettes, c'est-à-dire c'est des prototypes de spectacles que j'ai fait au festival Les Rassemblés en août. Là, c'est pour en gros, c'est business, c'est tu montres un peu c'est quoi ton projet, vers quoi ça irait, pour que tous les pros qui viennent, les programmateurs, puissent daigner, soit répondre à tes mails. Soit peut-être, un jour peut-être, te prêter une salle pour travailler. Du coup là j'ai fait deux présentations et ensuite j'ai fait une présentation la semaine d'après à la MJC Jacques Prévert. Donc au début quand j'ai fait la présentation rassemblée, c'était un peu un prototype avec des fragments d'histoire, des fragments de scènes. On rentrait dans quelque chose d'assez onirique et après l'avoir montré devant plein de gens, on a fait salle comble, les deux jours on était full complet. Mais la semaine d'après, on a taffé comme des oufs avec Mia. Et du coup, on a décidé de reprendre toute la structure et on s'est dit, mais en fait, il faut que ce soit le procès de l'enfant. Il faut que l'enfant fasse son propre procès. Et donc voilà, à la suite de ça, on a fait parler l'usine, on a écrit un texte sur l'usine. Donc le spectacle, il sort en mars 2026. On a déjà deux dates au théâtre du Grand Rond. Et le 17 janvier à 19h à l'espace culturel Saint-Cyprien, on fait une sortie de travail. Donc là, c'est même plus une maquette, c'est qu'on montre des bouts de notre travail où on en est. Fin février, je ne sais plus exactement les dates, mais si ça vous intéresse, suivez-nous sur Instagram. Mais en février, on a deux semaines de résidence au Théâtre Villeneuve-Tolosane. Et du coup, on va faire encore une présentation publique. Et là, il va y avoir un débat. Ils veulent faire venir un spécialiste pour venir parler de cette question-là. Voilà, donc...
Est-ce que toi, en tout cas, dans ce parcours de création-là, sur ce sujet-là, en plus, t'es à Toulouse t'es dans la ville où ça s'est passé, t'as l'impression que tu te sens soutenu, quoi. Et si tu te sens soutenu, peut-être par qui
Alors, les soutiens ne sont pas légion. Pour le moment, les soutiens ne sont pas légion. Il y a des lieux qui... En gros, pour l'instant, les endroits où on a travaillé, où en tout cas on a pu construire un peu le projet, ça a été à la MJC Ancely. On a eu une annexe aussi à Jules Julien. On a eu le mémorial d'AZF. J'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir avoir le mémorial d'AZF pour qu'on puisse travailler là-bas parce que symboliquement, c'est important. Du coup la mairie nous a filé le mémorial d'AZF et voilà, on a l'espace culturel Saint-Cyprien, le théâtre Villeneuve-Tolosane qui nous accueille aussi, et après il y a plein de lieux. Ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, à part la MJC Jacques Prévert, il n'y a pas des lieux du Mirail, c'est-à-dire Henri Desbals, Alban Mainville, la Brique Rouge. En fait, c'est des lieux avec qui je suis en contact. A priori, Alban Mainville devrait me donner une semaine de résidence. A priori. Donc, pour l'instant, on est sur des options. Donc, j'attends.
Est-ce que toi, tu aurais besoin de quoi, là, en ce moment, par rapport à ta création ? Parce qu'on ne sait pas qui nous écoute. Et du coup, à des moments, c'est bien de dire... Alors, on sait déjà que tu as besoin de quelqu'un à la lumière et
au
et
son.
Au son.
Ouais. Ce serait trop bien, ça.
Mais est-ce que tu as besoin de... d'autre chose ?
En tout cas, pour le son, pas forcément pour le spectacle, à part si la personne veut venir pour le spectacle, et pour la lumière aussi. Mais pour le son, par exemple, on doit mixer des sons et tout. Donc, même en avant-spectacle, ça pourrait être trop cool d'avoir des gens qui ont des tips là-dessus. Nous, on a besoin de salle et d'argent. De base, on a besoin de salle et d'argent parce qu'en vrai, je fais un taf où je taffe comme un ouf pour lequel je suis pas payé. C'est hyper dur de pouvoir trouver des lieux qui veuillent bien t'accueillir, au moins pour travailler. Tu leur demandes même pas de l'argent. Hein. C'est juste pour pouvoir travailler, essayer tes trucs. Et voilà, on a besoin de salle, on a besoin d'argent, on a besoin de visibilité. Parce que je tiens à rappeler que cet événement-là, c'est en tout cas autour de l'explosion de l'usine AZF, c'est un événement où on a silencié des populations. Et du coup, est-ce qu'on va continuer à silencier ? Qui va continuer à se montrer en collaboration oui. avec ce système de silenciation des personnes qui ont vécu cette explosion, et plus particulièrement des personnes des Mirail.
Ouais. Moi, j'avais envie de te demander, ce qu'on t'a dit, est-ce que tu te sens soutenu, qu'est-ce qui te soutient ? À l'inverse, est-ce que tu as l'impression que des fois, on te met des bâtons dans les roues ? Enfin, ça va avec cette histoire de silenciation. Est-ce que tu sens qu'il y a des réticences à parler de ce sujet ? Est-ce que tu sens qu'il y a des endroits où, en fait, c'est pas super bienvenu ?
Moi, on a voulu me faire travailler par endroits. On a voulu me faire travailler un peu gratuitement, à faire des ateliers gratuits pour pouvoir travailler dans des lieux. Chose que j'ai refusée parce que ça, on appelle ça du travail dissimulé et du travail pas légal, quoi. Moi, j'ai refusé. Hein. Je tiens à rappeler que mon père, il était maçon et ma mère, femme de ménage. Donc, travail gratuit, vous pouvez toujours vous gratter. À part pour mon spectacle, après commencer à faire de la médiation, des ateliers artistiques pour pouvoir avoir un lieu, il ne faut pas se foutre de la gueule du peuple. C'était quoi ?
Ma question, c'était si tu avais l'impression que, à des moments, amener ce sujet d'AZF, ça posait problème, quoi. Ou si c'était bien reçu ou mal reçu, quoi.
Les gens sont... Ils entendent quand même, ils voient un peu le projet. Je trouve... En tout cas, il y a pas mal de gens qui trouvent ça un peu intéressant. Après, c'est toujours la même chose. Si t'es pas le fils d'eux, si t'es pas en train de lécher les bottes d'un tel progrès, d'un tel, en fait, on te file pas de salle. Moi, je vais pas commencer à lécher des bottes pour un truc, déjà, où on est tout à fait légitime à venir parler, tu vois, et à venir au moins construire des choses autour de cet événement-là. Moi, c'est en vrai, je me suis plutôt mangé des petites remarques racistes de la part de certains hein, ou certaines hein, qui sont très clairement m'ont fait des petites remarques racistes quand j'étais en entretien avec eux. Et voilà, donc des fois c'est pas évident parce qu'effectivement on n'est pas hyper soutenu. Mais après, de toute façon, vous êtes là, vous êtes pas là. Nous, on est là et on est là.
Donc ce spectacle, il va se faire, peu importe, mais on souhaite quand même qu'il soit et visibilisé, et soutenu, et encore plus, parce qu'on est à Toulouse.
On est à Aurillac, bientôt.
Et que vous serez à Aurillac, vous faites une résidence à Aurillac.
Non, Aurillac, on va jouer à Aurillac le spectacle cet été.
Cet été, 2025.
Ouais. Ouais, en tout cas, le spectacle pas fini, mais on va le montrer à Aurillac.
Mais en tout cas, si vous avez envie de suivre, j'ai l'impression qu'on pourra suivre plusieurs étapes. Et y avait cette... tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, on parlait de ces deux choses qui ne s'opposent pas, mais que tu nous as mis ensemble, qui sont Merveilleux Catastrophe et Fiction Docu, qui ont l'air d'être un peu les deux faces du miroir, ou je sais pas comment on dit.
Miroir d'Alice au Pays des Merveilles.
Le miroir d'Alice au Pays des Merveilles. Et vous avez vu dans cette émission, il y a eu plein de références merveilleuses à partir des témoignages. En mars 2026, vous pouvez normalement retrouver Tout va bien. On sait pas, on n'a pas encore la date de mars 2026.
C'est en mars 2026. Pour l'instant, on a des dates d'achat, du moins des dates où on devrait jouer. Nous, en vrai, si on avance vite, on a du soutien, on a de l'argent, on trouve des gens, etc. On le fait même plus tôt. Hein.
Voilà, donc s'il vous plaît, donnez de l'argent parce qu'on a envie de voir, on a envie de le voir plus tôt qu'en mars 2026. Je te laisse le mot de la fin, un truc que t'aimes bien apparemment, ce mot de la fin.
Le mot de la fin, ouais. Mais c'est parce que j'étais le petit dernier chez moi, c'est pour ça. Alors le mot de la fin, n'hésitez pas à suivre la compagnie, c'est... sur Instagram, ça s'appelle cie.comsa, khomsa. Et voilà, vous pouvez me contacter dessus. Et marhaba bikoum, bienvenue à tous et à toutes.
Eh bien, merci beaucoup.
C'était, ouais, merci à toi, franchement, c'était trop bien.
Merci à vous.
À très bientôt, on se retrouve la
merci
semaine
la
prochaine à 19h. Ouais, merci Mathilde.
Merci à la technique qui a grave géré. Bras zéro, toujours là.
Qui est des numéros uno. Bonne soirée.
Bonne soirée, bisous.